Comme les bons chefs d'entreprise, assurez la fin de carrière de vos employés sans préjudice en choisissant Sounou Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup, le domicile est associé au sentiment de sécurité. La maison est souvent perçue comme un refuge. Et pourtant, des lieux a priori sûrs peuvent exposer leurs occupants à de véritables risques. Difficile, en effet, d'admettre qu'en France, la maison tue 2 à 3 fois plus que la route. Accidents domestiques, accidents de la vie courante, ces chutes, brûlures, intoxications. Quand une petite main ouvre une bouteille contenant un produit dangereux, électrocution, négligence, aménagement mal conçu, beaucoup de ces risques du quotidien pourraient être évités. Et c'est pour cela qu'au-delà des gestes de première urgence, la prévention est la meilleure réponse. Campagne d'information, éducation, réaménagement et avertissement systématique sur les objets les plus dangereux. Ainsi, nous avons tous en tête le fameux conseil de prudence imprimé sur les étiquettes, tenir hors de la portée des enfants. Car face à ces accidents de la vie courante, eh bien ce sont une fois de plus les jeunes et les personnes âgées qui sont les populations les plus vulnérables à ces dangers du quotidien. Alors, si vous-même ou quelqu'un dans votre entourage est concerné, si vous avez une question à ce sujet, appelez-nous 33 1 84 22 75 75. Accidents domestiques, comment les éviter, comment les prendre en charge? Avec nous en studio, le docteur Massamba Sassoun Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal. On va retrouver tout à l'heure en ligne pour parler de prévention. Muriel Bouin, elle est directrice adjointe de Calixis, association spécialisée dans l'expertise du risque. Et puis nous rejoindrons au Gabon le docteur Augustine Makaya, qui est pédiatre à la clinique Saint-Alice de Libreville. Une conférence consacrée à la santé mondiale à l'horizon 2030, organisée aujourd'hui à Sciences Po Paris. Au nombre des intervenants, le professeur Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et la santé. On va retrouver en fin d'émission le professeur Delfrécy, qui est donc à la tête de ce groupe de réflexion Think Tank Santé mondiale 2030.
Priorité santé sur RFI.
Les accidents de la vie courante, on en parle dans quelques instants, docteur Massamba Sassoun Diop, mais on revient tout de suite à l'actualité française. Vous êtes urgentiste et ces dernières semaines, ces derniers mois même, on entend dans les journaux ces services d'urgence qui sont en grève. On parle de la crise de l'hôpital et spécifiquement de la crise des urgences. Et en ce moment, et jusqu'à vendredi, il y a un congrès des urgences, le principal congrès du genre qui se tient à Paris, congrès urgence 2019, cette concomitance, c'est le fruit du hasard. Mais forcément, même si les urgentistes, même si les spécialistes se réunissent, il y a en toile de fond cette fameuse crise.
Oui, effectivement, c'est une crise très très profonde. Tous les jours, on voit des centaines de mails qui passent avec les gens qui n'en peuvent plus dans l'ensemble des services d'urgence. Dans la mesure où il y a un flux énorme de patients, le système de médecine simple, c'est-à-dire le médecin généraliste, ne faisant plus sa fonction normale, on se retrouve à avoir des patients mais qui viennent pour des pathologies qui ne sont pas vraiment urgentes et qui embolisent complètement les urgences et qui fait que du coup on se retrouve à avoir des attentes extrêmement longues et les médecins qui sont complètement épuisés. Et du coup les pathologies, bon de toute façon les pathologies très graves, elles vont être gérées, mais vous retrouvez à avoir constamment un flux comme on n'a jamais eu jusque-là.
Avec une tension aussi avec les patients, parce que finalement, impossible de renvoyer les gens chez eux sans les faire passer en consultation.
Quelqu'un qui vient avec un enfant qui a une fièvre, il s'angoisse, et devant la personne à l'accueil, est capable, parce qu'on lui dit qu'il va devoir attendre 1h30 ou 2h, même s'il va, on va lui donner un traitement pour la fièvre pour l'enfant, mais se met à taper réellement physiquement sur la personne de l'accueil, sur l'infirmière d'orientation. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant comment on voit cette violence qui monte aux urgences avec de plus en plus d'incidents. Et puis, bien sûr, l'épuisement des médecins urgentistes, parce qu'en fait, ils veulent faire leur métier le mieux possible et du coup, font plus de garde qu'il n'en faudrait et à un moment, se retrouvent dans un épuisement total.
Facteur de stress, facteur de crispation, on va dire, des deux côtés, hein, aussi bien patient que soignant.
Oui, tout à fait. Et alors, on peut comprendre que les autorités, là, il y a quelques jours, à Lons, le soigner, ils ont réquisitionné le personnel. Théoriquement, vous savez, vous mettez un brassard, et puis, mais le personnel exténué s'est mis en arrêt maladie.
Donc, en fait, on a contourné la législation pour pouvoir s'arrêter et dire oui, ça suffit.
Voilà. Et donc, on se retrouve dans un conflit extrêmement puissant. Et au bout, finalement, c'est la qualité de soins qui paye, si on veut. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il va falloir vraiment trouver, aussi bien en termes de recrutement, en termes d'organisation du système global, ici, au niveau de la médecine, au niveau du nombre de personnes en ville qui peuvent soigner, et dans les campagnes, n'en parlons pas, il faut vraiment trouver une solution assez rapidement.
Alors, justement, dans ces services d'urgence, aux admissions, au triage, ces accidents domestiques, accidents de la vie courante, on imagine qu'on en voit beaucoup passé, on en prend beaucoup en charge, docteur Massamba Sassou Ndiop. Justement, quel type d'accident vous êtes amené à traiter?
Alors, il y a un petit peu fonction des âges. Les tout petits, comme les âges extrêmes, on va avoir d'abord, le petit peut pas marcher. D'accord? Donc en fait, il va mettre les choses à sa bouche. Donc soit il s'intoxique avec les choses à la bouche, c'est-à-dire ça peut être les produits chimiques, ça peut être les comprimés. Bien sûr, la maman peut, ou le papa peut le laisser tomber de la table allongée. Alors ça peut être la chute. Et ensuite, dès qu'on grandit un petit peu, ça va être plutôt un mélange d'intoxication et de chute. Et les personnes âgées, on a vraiment ce problème extrêmement important des chutes avec des conséquences qui peuvent être justement le fait qu'une fois resté à l'hôpital, la complication va amener jusqu'à la mort, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un syndrome de glissement.
Alors, docteur Massamba Sassou Ndiop, accident dans la maison, est-ce qu'on a identifié des lieux particuliers, des lieux particulièrement dangereux?
Alors, la cuisine, hein, c'est presque 25% des accidents. Il y a la salle de bain, où on glisse beaucoup, où, et puis bon, tout ce qui concerne les brûlures, bien évidemment. Et puis, le corps étranger, c'est un peu partout, d'accord? Où on peut le inhaler, mais c'est plutôt autour du repas. D'accord. Et pour l'enfant, c'est plutôt avec tout ce qui est jouet ou autour du repas aussi où on a ce problème. Après, il y a la piscine. Quand les gens ont une piscine, bon, c'est pas tout le monde qui en a, bien sûr.
Risque de noyade.
Et le risque de noyade, bien sûr, qui se rajoute. Et l'électrisation. Donc ça, c'est tout ce qui est prise, voire électrocution, où on a, bien sûr, ce risque qui est majeur.
Alors, docteur Massamba Sassou Ndiop, on va tout de suite prendre en ligne une auditrice de Priorité Santé.
RFI.
Cette auditrice nous appelle du Sénégal, de Dakar, c'est Mam Jena. Bonjour Mam Jena.
Bonjour à vous.
On vous écoute, allez-y.
Bon, en fait, moi, c'est comme les accidents domestiques. J'en ai vécu il y a de cela au mois de septembre, bientôt presque 9 mois. Donc, c'était de l'huile chaude que je devais transvaser. Et l'huile s'est versée sur ma main. Donc, à la première réaction, je suis directement allée, j'ai mis ma main à l'eau de robinet. Puis après, la famille a décidé de mettre de la farine pour enlever l'huile. Maintenant, avant qu'on aille à l'hôpital, ça a pris 30 minutes, arrivé à au centre de santé le plus proche, ils ont trempé ma main dans l'eau fraîche et ils ont mis une perfusion pour calmer la douleur. Maintenant, mais le premier jour de soins, ils n'ont pas enlevé ils n'ont pas décapé la peau morte qui était dessus. Pendant 2 jours, je ne dormais pas, jusqu'à finalement que j'allais à l'hôpital principal de Dakar où on a dû décaper la peau morte et puis faire les premiers soins qu'il fallait. Ils ont bandé la main et puis voilà. Mais quand même, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma main avait finalement, c'était vraiment enflé et la brûlure est encore là parce que elle n'est pas guérie. J'ai une, comment on appelle, je pense que c'est une tumefaction qu'on appelle, et je suis sous traitement corticoïde, des injections de ténacorte pour pouvoir calmer l'enflement que la main a fait et la peau rugueuse que ça a développée.
Mme Jena, est-ce que vous avez des douleurs?
Quels sont les premiers soins à faire?
Est-ce que vous avez encore des douleurs aujourd'hui?
Jusqu'à présent, oui.
Jusqu'à présent, oui.
J'étais en soins ce lundi, oui. On n'avait pas les premiers soins à faire. Donc, ma main, j'ai failli perdre l'usage au niveau du poignet parce que ça faisait très mal. On l'a mal soignée, en fait, au début.
Vous estimez avoir été mal soigné. Docteur Massamba Sassou Ndiop, qu'est-ce que vous pouvez dire de la prise en charge après cette brûlure avec de l'huile? En tout cas, le premier réflexe de Mme Jena était le bon.
Exactement. Initialement, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. À savoir, il faut être obsessionnel Brûlure égale eau. C'est très simple. Brûlure égale eau fraîche pendant 10 minutes. Qu'elle soit chimique, qu'elle soit à la chaleur avec justement de l'huile bouillante ou de l'eau bouillante, ou qu'elle soit avec des flammes. Extrêmement simple. Et surtout, rien d'autre. Quelquefois, les gens mettent de la pomme de terre, mettent du dentifrice, mettent juste du beurre. Mais on ne met rien d'autre. N'oublions pas que de quoi meurt un brûlé ? Quand il est, c'est grave, il va mourir de déshydratation, donc il va falloir compenser ce problème-là. Et la deuxième chose, il meurt d'infection. Et c'est pour cette raison que surtout ne mettez rien, et c'est ensuite à l'hôpital que les soins vont être faits. Il ne faut pas se tromper sur cela. Donc extrêmement important, ne retenir sur la brûlure que l'eau. C'est très simple.
Et ensuite, sur la prise en charge aujourd'hui pour Mme Jenna, elle a toujours des séquelles, la main encore gonflée et puis des douleurs.
Oui, alors les douleurs, bien évidemment, elles vont être traitées. Mais nous, dès le départ, on traite la douleur. Et sachez qu'en plus, l'avantage... Alors, pourquoi de l'eau, en fait ? L'eau, premièrement, ça coupe l'évolution de la brûlure en local, puisque la peau est très chaude et on évolue d'un premier vers un deuxième ou d'un deuxième degré vers un troisième degré.
On va dire que, en quelque sorte, la peau continue de brûler.
Elle continue à brûler pendant quelques minutes. Donc, c'est pour ça qu'on coupe. Et la deuxième raison, c'est que ça calme la douleur. Immédiatement, on a tous ce réflexe. Vous brûlez dans le four ou d'une certaine façon, vous mettez...
Voilà.
Ensuite, donc, nous, quand on va arriver, on va traiter aussi la douleur en plus du fait de faire les soins et les pansements. Et secondairement, ensuite, en hospitalisation, justement, c'est les pansements de brûler selon le degré, parce que si c'est un premier degré, ça cicatrise sans aucun problème. Deuxième degré superficiel, pareil. À partir du deuxième degré profond et troisième degré, c'est là où on a encore plus ces œdèmes-là. C'est là où on a ces risques d'infection majeure et c'est là où on est amené à pouvoir faire des greffes. Et l'enjeu est d'éviter d'être à ce stade-là. Donc c'est pour ça qu'il faut très tôt prendre les choses.
Mme Jenna, voilà pour votre témoignage. On vous en remercie beaucoup. On vous souhaite une très très bonne journée à Dakar, au Sénégal.
Juste une chose, je suppose qu'elle a eu aussi la vaccination anti-tétanique si elle n'était pas à jour.
Vous avez été vaccinée après cet accident, donc ça a été fait.
Oui.
Très bonne journée à vous en tout cas, Mme Jenna. Merci pour votre témoignage. On va parler de la prévention, hein, c'est primordial. On parle bien sûr des premiers gestes, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure en fonction des différents types d'accidents. Mais on va parler tout de suite de la prévention et pour cela on va retrouver en ligne Muriel Bouin, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la directrice adjointe de Calixis. Avec cette première question, d'abord, sur ce type d'association qui travaille à la prévention des risques, ça consiste en quoi exactement ?
Alors en fait, Calixis, c'est un pôle d'expertise du risque. C'est un centre de ressources dédié à la prévention des accidents au domicile. En fait, on gère des bases de données sur l'accidentologie au domicile pour bien comprendre, en fait, quels sont les accidents qui se produisent au domicile. Et puis, on administre aussi une grande cohorte, c'est-à-dire un nombre de gens qu'on va suivre dans le temps sur les accidents de la vie courante, qui s'appelle l'observatoiremavie.com et qui a 27 000 inscrits. Donc là encore, on va mesurer de temps en temps, assez régulièrement, ce qui se passe dans les foyers en France en matière d'accidents.
Alors, cette connaissance des faits qui permet de mieux prévenir, donc vous pouvez parfaitement identifier les zones, les équipements et les situations qui sont les plus risquées.
Absolument. Et donc ensuite, fort de cette expérience-là, on peut aussi aider les industriels à améliorer l'usage de leurs produits, puisqu'on sait que en utilisant tel ou tel produit, on arrive à faire des erreurs. Donc on essaye de les aider de ce point de vue-là. Et puis, dernier maillon de la chaîne, si je puis dire, de prévention, nous créons des formations et des ateliers ludiques et pédagogiques pour le grand public, pour leur redonner un petit peu tout ce qu'on sait sur ces accidents.
Alors, comprendre ce qui se passe, aussi recenser les accidents, est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, pour la France, Muriel Bouin, si on constate une recrudescence de ce type d'accident de la vie courante ?
Alors, on ne peut pas parler de recrudescence. En fait, les accidents de la vie courante, aujourd'hui, c'est 20 000 morts chaque année en France. Et malheureusement, ce chiffre, il reste dramatiquement stable. Il est dû en grande partie au vieillissement de la population parce que les personnes âgées sont particulièrement vulnérables face aux chutes. Je rappelle simplement que la chute en France, c'est 9 000 seniors qui perdent la vie chaque année en tombant, une chute toute bête. Et plus ils vont rester longtemps au sol, plus le pronostic vital va être engagé.
Alors justement, on a parlé tout à l'heure brièvement avec vous de ces ateliers, visualiser un peu ce qui peut se passer à la maison, et justement des décisions à prendre, des conseils à donner aux particuliers en termes d'équipement. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie quotidienne pour rendre la maison moins dangereuse ?
Ben, je dirais que la première des préventions, c'est... quelquefois de s'arrêter deux secondes avant de faire un geste, avant de constater qu'un enfant nous regarde et qu'on va transmettre le mauvais geste sans même avoir de parole. Donc souvent, c'est une question de bon sens.
Par exemple, si on regarde par exemple les électrocutions, c'est vrai que le nombre de fois où on a les mains sous l'eau, on se dirige vers un électroménager sans prendre le temps de passer tout simplement par un petit séchage des mains, hein, ce qui ne prend que 3 à 5 minutes. On dit « Oh, c'est pas moi que ça va arriver ». Et voilà.
C'est ça. C'est ça. En fait, en tout cas, en France, on a cette idée que la prévention, on sait faire. On sait, ça n'arrive qu'aux autres, et puis on fait tout bien. C'est malheureusement pas le cas. On ne serait pas avec 20 000 morts chaque année, hein, malheureusement. C'est vrai que nous, par exemple, un conseil tout bête qu'on donne aux jeunes parents, c'est de se mettre à quatre pattes et de faire le tour de leur maison, parce qu'ils sont exactement à la hauteur des yeux de leur enfant et ils peuvent voir la petite cacahuète qui a roulé sous un canapé, des tas de petites choses que nous, adultes, nous ne voyons plus de notre point de vue d'adulte. Ça, c'est un conseil vraiment à la portée de tout le monde.
Merci beaucoup. Un conseil très pratique, Muriel Boin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'association Calixis. Alors, on a bien compris, docteur Massamba Sassou Ndiop, des équipements, des aménagements. Il y a aussi les gestes et l'éducation. C'est très important de montrer à ceux qui sont en âge d'apprendre qu'il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire.
Ça, c'est majeur. Et c'est pour ça que, normalement, tout enfant, dès l'école, et en général, ce qu'on vise, c'est CM1, CM2, tout enfant doit avoir eu des séances de formation de secourisme.
Et vous le faites à Dakar, hein?
Tout à fait. Je le fais dans beaucoup d'écoles et toute notre équipe, hein, au niveau des SOS, on est vraiment tout un groupe à le faire systématiquement. Je dirais qu'il n'y a pas de semaine quasiment sans que nous fassions des formations, justement pour que la prévention est tellement... C'est-à-dire parce qu'il y a deux niveaux là, quand on fait ces cours. Il y a le fait justement de faire cette prévention, c'est-à-dire qu'on explique pour éviter que ça arrive, et ça c'est la première des choses la plus importante, et on en a beaucoup, hein, au Sénégal et en Afrique en général, des accidents domestiques. Et la deuxième chose, c'est bien évidemment quoi faire. Faire ce que je dis toujours, les premiers pas, P, protéger, se protéger, A, alerter, S, secourir. Et donc ça, c'est essentiel de le faire.
On va justement avoir d'autres illustrations puisqu'on retrouve tout de suite les auditeurs et les auditrices de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Alors, illustration, nous partons au Bénin, à Cotonou, où l'on retrouve Rafiat. Bonjour Rafiat.
Oui, bonjour Caroline.
Allez-y, on vous écoute.
Ok. Il y a quelques années, j'ai suivi une émission concernant les enfants qui sont souvent attachés à leur mère à la cuisine. De par l'émission, nous donnait des conseils pour les éduquer à la cuisine, à savoir les noms des fruits, les noms des légumes, les noms des ustensiles de cuisine. Donc, je voudrais savoir s'il n'y a pas d'autres astuces pour les enfants qui, pour leur éviter les brûlures et les accidents au niveau de la cuisine. Parce que moi, j'ai une petite fille de 2 ans qui est toujours collée à moi. Et il y a de cela quelques moments, elle s'est brûlée avec l'eau, mais heureusement, ce n'était pas trop chaud. Donc, je voudrais savoir s'il y a des conseils, des astuces pour les amener à ne pas aller vers l'eau chaude ou bien vers les couteaux, les trucs qui pourront les blesser.
Est-ce que vous avez fait dans votre cuisine, Rafiat, des aménagements? En fait, quand les enfants sont arrivés, est-ce que vous avez déplacé des objets, par exemple, qui étaient plus bas? Maintenant, vous les mettez vraiment hors de leur portée? J'ai une autre question.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites avec les produits d'entretien? Vous les achetez dans des contenants fermés ou vous les transvasez?
Oui, c'est dans des bidons et bien fermés.
Mais à quelle hauteur? Ils sont dans des placards fermés? Ils sont à quelle hauteur?
C'est un peu plus gros que leur taille, que la taille de la petite de 2 ans. L'autre, il a 7 ans, mais lui, il comprend mieux. Parce qu'il arrive à lire, il sait quand c'est dangereux, il ne va pas vers.
Mais vous, précisément, vous disiez, qu'est-ce que je peux faire? Vous leur avez montré, ce petit garçon de 7 ans, vous lui avez expliqué qu'il y avait des dangers, que ce n'était pas des liquides comme les autres, que là, c'était sa vie qui était en danger. Qu'est-ce que vous lui avez dit?
Oui. Bon, je l'amène quand même à lire, et les insignes de danger, souvent sur les bidons, je lui dis de voir que c'est dangereux. Quand on avale, voilà, il n'a qu'à fermer les yeux. Et quand il ferme les yeux, je dis, il a vu qui? Il dit personne. Je dis, voilà, quand il avale, voilà ce qui va se passer, il ne me verra plus. Donc j'essaie quand même de lui expliquer que c'est plus dangereux de ne pas s'approcher, de ne pas, ça ne doit pas aller à la bouche, ainsi de suite.
Donc ce travail, vous l'avez commencé vous-même, docteur Massamba Sassoun Diop. Tout à l'heure, vous parliez de ces séances d'initiation, de prévention que vous faites en milieu scolaire. Ce qu'on voit clairement avec Rafiat, c'est qu'il y a aussi une demande de la part des familles, des mères de famille éventuellement, d'avoir les bons arguments et les bons réflexes avec les enfants. C'est pas forcément évident.
Oui, mais de toute façon, là, on voit qu'elle est déjà sensibilisée.
Déjà, s'en préoccuper, c'est déjà le premier pas.
Exactement. Et elle donne déjà les conseils. Et elle fait déjà un certain nombre de choses qui sont très bien. Et dans les conseils justement à donner, bon, tout ce qui est, par exemple, on met hors de portée, mais vraiment hors de portée, et de le faire systématiquement. Et si, par exemple, souvent en Afrique aussi, il y a des employés de maison, faites très attention, parce qu'en fait, ils ne suivent pas, ils n'ont pas forcément cette éducation-là. Et il faut aussi leur expliquer que c'est impératif. Les couteaux, on va les mettre en hauteur et on va les mettre la pointe vers le bas. Tout ce qui est les queues des casseroles.
C'est on les tourne, classique. Oui, c'est vraiment voilà. Ne pas se brûler.
La dernière fois, j'ai eu un enfant qui a attrapé le riz qui était en train d'être cuit dans un rice-cooker et ça s'est renversé sur lui. Il avait 3 ans et il a retourné, c'était branché électriquement. Il s'est complètement brûlé le visage et le torse comme ça. Donc, c'est ce type de choses. Il peut tirer sur le fil électrique de la friteuse ou l'autre fois, on a un enfant qui s'est assis dans la friteuse. Donc, en fait, c'est tous ces éléments-là de prévention. Et ce qu'elle a fait qui est très important, mais faut vraiment être obsessionnel sur ça, tous les produits chimiques ne doivent pas être, en général c'est sous l'évier. Premièrement, ils ne doivent pas être sous l'évier, ils doivent être avec des systèmes, normalement il y a des bouchons particuliers, mais surtout, ce qui est fait très souvent, entre autres dans nos pays, c'est qu'on met la soude caustique par exemple, ou l'eau de Javel, ou même des produits quelquefois, des désherbants et autres, dans une bouteille à usage alimentaire, d'eau. On transvase, quand on met de l'eau avec, ça devient blanc,
et ça traîne. Ressemble.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enfant, il croit que c'est du lait, il le prend, il boit, et le temps qu'il comprenne, le temps que ça le brûle, le temps qu'il sente que c'est pas agréable, c'est déjà passé. Et ça arrive tous les jours. Et c'est totalement catastrophique.
S'il y a un conseil, c'est ne jamais transvaser dans une bouteille ordinaire n'importe quel autre produit.
Et si c'est le cas là, vous allez tout de suite dans votre cuisine, je dis bien là, maintenant.
À l'écoute.
Et vous allez vider tout de suite ce produit. Parce qu'en plus, vous vous dites, non, mais mon enfant maintenant, par exemple, elle a bien dit, j'ai un enfant qui a 7 ans, il y en a un petit, il sait, faut pas se leurrer. Non. L'enfant, il sait pour tel produit, même si vous dessinez une tête de mort ou je sais pas quoi dessus, faut pas se leurrer. Et puis, n'oubliez pas, si jamais vous avez des invités qui viennent
et qu'il y a des enfants.
C'est la même chose. Ça arrive tous les jours. C'est une réalité.
Et c'est sténose, hein, on parle de sténose caustique, quand justement l'œsophage est brûlé par ce produit chimique, c'est absolument terrible.
C'est catastrophique.
L'enfant ne pourra plus manger.
Non, et ce sera des opérations extrêmement lourdes qu'il va falloir faire à distance, c'est affreux, si l'enfant survit. Et d'autre part, justement, est-ce qu'on peut peut-être en parler de la prévention, du traitement par rapport à cela? Ben, ce qu'on doit faire dans ce cas-là, c'est surtout, parce que les gens ont tendance à faire quoi? À vouloir faire vomir.
Surtout pas.
Jamais. Ce qui brûle à l'aller, brûle au retour. Et l'œsophage, s'il n'était pas encore totalement détruit, il l'est à ce moment-là. Il y a une certaine protection une fois que le produit arrive dans l'estomac. Parce qu'en fait, il y a un mucus. Donc surtout, on ne fait pas vomir. Surtout, on ne fait pas boire du lait. Surtout, on ne fait pas boire de l'eau. On déshabille l'enfant parce que quelquefois, ça coule sur les habits pour rincer l'extérieur. On tamponne éventuellement la bouche et surtout on amène au gastro-entérologue qui va, avec un appareil, un fibroscope, va aller voir l'étendue des lésions et va décider de qu'est-ce qui va se faire dans le temps.
Donc c'est l'hôpital en urgence absolue.
Exactement.
Voilà, Rafiat, hein, on a bien compris les produits d'entretien dans des bouteilles, dans des bidons spécifiques et très loin des petites mains. On vous souhaite une bonne journée à Cotonou au Bénin. On va rejoindre tout de suite Elmer au Gabon. Au Gabon, oui, à Libreville. Bonjour Elmer.
Oui, bonjour madame.
On est à votre écoute, allez-y.
Oui, moi j'ai toujours une maladresse, c'est qu'à chaque fois que je suis toujours en train de couper les condiments, je me coupe toujours avec du couteau. Voilà. un peu depuis un type de bas âge. Et la question est que, parce que nous, à Libreville, au Gabon, je dis presque la plupart de tous les ménages à Libreville, lorsqu'on se coupe ou on se brûle avec de l'huile ou avec de l'eau bouillante, on a toujours tendance parfois à mettre du javel. On se coupe pour désinfecter d'abord la blessure, ou encore lorsqu'on se brûle avec de l'eau bouillante, on met parfois du sel ou encore de la pâte dentifrice pour ne pas que ça se cicatrise, pour ne pas que les... Et je vais dire ça comment oui, on a des cicatrices de la brûlure de,
ou qu'il n'y ait pas d'infection. Ou qu'il n'y ait pas d'infection.
Voilà, de la brûlure, oui, de l'huile ou encore de l'eau bouillante. Alors la question était que, est-ce que ce n'est pas nocif à notre corps de mettre le pâte dentifrice ou encore du sel?
Docteur Massamba Sassou Ndiop, on entend souvent, on a souvent ces témoignages des auditeurs qui utilisent, on va dire, des remèdes maison quand il y a un accident. Dans certains cas, ça marche, dans d'autres, pas du tout, du tout, du tout.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été très précis, on ne met pas autre chose que de l'eau sur les brûlures. C'est aussi simple que ça. Mmh. Un autre conseil, juste rapidement sur les brûlures, c'est qu'en fait, si on est en flamme, c'est une étude indienne qui a montré que si on se roule soi-même par terre, ou s'il y a quelqu'un qui est à côté et qui peut vous rouler par terre, ça permet de diminuer de façon vraiment très sensible les conséquences des brûlures. Donc se rouler par terre, étouffer les flammes, mettre sous l'eau, déshabiller. Et surtout pas de dentifrice, pas de produit, pas de beurre,
pas de d'huile, sel, puis en plus ça va faire très
alors,
mal.
Le sel en plus ça va brûler. Ouais, ouais. Par contre on peut emballer, on est à distance, il n'y a pas de soin de personnes qui puissent venir. On va emballer dans un drap propre par exemple, qu'on va mouiller pendant tout le trajet pour amener au médecin qui va ensuite faire les soins.
Alors Elmer parlait de cette coupure, alors du désinfectant, l'eau de Javel, je sais pas.
Alors... nettoyer. Alors, d'ailleurs, c'est un peu hier, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis moi-même coupé dans ma cuisine.
J'imagine, vous n'avez pas utilisé d'eau de Javel, non?
Donc,
plutôt un désinfectant.
J'ai nettoyé à l'eau, au savon, et ensuite, bon, j'avais un petit peu de gel alcoolique, mais sinon de la chlorhexidine ou un produit désinfectant simple. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Vérifier tout ce qui est vaccination, et surtout, dans cas de coupure, qu'elle soit gigantesque entre guillemets, que ce soit une coupure de la carotide, de la fémorale, à la petite coupure que j'ai eue hier, eh ben en fait qu'est-ce qu'on a fait, on comprime. On comprime directement. Vous connaissez pas la personne, vous connaissez pas son statut sérologique, vous posez des problèmes, des questions, c'est dans la rue, c'est un accident de la route, ben vous prenez un tissu qui va séparer et se protéger et vous comprimez l'hémorragie, c'est l'élément le plus important. Vous pouvez après faire un pansement compressif. Et si jamais la coupure est extrêmement importante, à ce moment-là, par contre, et que malgré la compression, vous n'y arrivez pas, là, vous allez pouvoir faire un garrot en attendant que les secours arrivent, bien sûr, que vous avez appelé.
Elmer, donc, pas de dentifrice, pas de sel. Peut-être que vous pouvez aller à la pharmacie acheter un petit flacon de désinfectant.
Oui, chlorhexidine.
Très simple.
Pour pas que ça pique.
Voilà, ce sera mieux que l'eau de Javel, en tout cas.
C'est pas... Enfin,
non,
au moins,
il
a désinfecté.
C'est désinfectant.
Mais c'est un petit peu agressif, le Javel. Mais au moins, il a désinfecté, ce qui est déjà un bon réflexe.
Voilà, très bonne journée à vous, Elmer, à Libreville. Et posez les couteaux, hein, ça suffit. Allez pas encore vous blesser. Alors, on soulignait justement l'importance de la prévention. Vous avez, docteur Massamba Sassou Ndiop, cette double expérience au SAMU ici en France et puis SOS Médecins à Dakar. Est-ce que vous diriez comme ça, double expérience, que les risques à la maison sont les mêmes?
Ah oui, alors là,
complètement.
Pleinement.
Oui, hein.
La seule chose, c'est que on a quand même, si on prend globalement la population, elle est plus sensibilisée en Europe qu'en Afrique. Donc, on se retrouve avec beaucoup plus, je trouve moi statistiquement, d'accidents domestiques, entre autres chez les enfants. Chez les personnes âgées, on en a beaucoup ici, parce qu'en fait, là, c'est un peu différent.
Avec le vieillissement de la population.
Il y a une population âgée, et on en a bien évidemment beaucoup. Et là, la personne qui glisse, la personne donc qui se fracture, la personne qui prend mal ses médicaments, bon, ça, c'est un petit peu partout pareil. Par contre, chez les enfants, c'est très très nettement beaucoup plus important en Afrique, dans les pays du Sud.
Avec vraiment la conscience que certains objets complètement anodins du quotidien, docteur Massamba Sassou Ndiop, peuvent être détournés de leur usage. Je pense par exemple aux sacs plastiques et puis aux cordons. Hein, on dit pas d'écharpe à l'école, des fois les parents s'énervent, mais pourquoi? Et on sait pourquoi.
Oui, complètement. On se rend pas compte comment un enfant qui est en train de jouer avec ce sac en plastique va s'étouffer et n'arrivera pas à l'enlever parce que ça aura fait un petit nœud. Ça, on peut avoir effectivement ce problème de cordon. Et puis, je crois que l'autre élément important, c'est tout ce qui est autour de l'étouffement. Et ça, c'est majeur. C'est-à-dire que l'autre fois, on a eu un petit, une petite fille qui, avec un capuchon de stylo, s'est étouffée totalement. On a eu, avec une noix de cajou, on a eu une personne âgée avec une feuille de chou plaquée au fond de la gorge. On en a eu une autre avec un morceau de viande. On a eu une jeune fille en train de manger ses frites et en train de rigoler et bloquée. Donc là aussi, il faut savoir quoi faire. Et qu'est-ce qu'on doit faire? La première des choses, ça dépend. Si l'air passe encore. Et la personne qui a fait une, ce qu'on appelle une fausse route. Et vous allez d'ailleurs entendre un double bruit, ça va être le... Il a une double respiration, inspiration, expiration, ça bloque. Ce patient-là, il faut surtout pas lui faire de manœuvre. Le risque, c'est vous faites la manœuvre et à ce moment-là...
Il y a l'obstruction, c'est bloqué.
Parce qu'il va respirer comme un fou et ça va se bloquer. Donc lui, vous appelez les secours et on l'amène pour enlever le corps étranger.
Tout simplement parce qu'il respire
avec
encore.
Avec un peu de chance, il va tousser et ça va sortir. Par contre, celui qui est bloqué complètement, il va vous regarder avec des yeux exorbités. Il va se tenir le cou. Et il va pas pouvoir dire un seul mot puisqu'en fait l'air ne passe pas. Et celui-là, c'est 5 tapes dans le dos immédiatement entre les deux omoplates. Vous tapez. C'est un bébé, vous l'inclinez un peu vers le bas, vous tapez dans le dos entre les deux omoplates. Si ça ne marche pas, vous faites là, donc après 5 fois, la manœuvre, ce qu'on appelle de Heimlich, où on appuie, vous dites à peu près sur le nombril, et vous remontez en remontant en fait le diaphragme, et là vous essayez de sortir l'air. Mais faites-le bien dès la première fois, parce que sinon, ça passera pas. Si, après toutes ces manœuvres, ça n'a pas marché. Et l'enfant, donc, en fait, lui, on va le mettre sur le dos, toujours à 30 degrés. On va appuyer à la base du thorax. Donc, 5 fois. Ça marche pas. On le remet dans l'autre sens. Chez l'adulte, ça marche pas. Il est en train d'être dans le coma. À ce moment-là, il va être allongé par terre. C'est seulement maintenant que vous allez éventuellement essayer d'enlever, si vous voyez uniquement le corps étranger, vous l'enlevez avec les doigts. Et si ça ne marche pas, vous avez bien sûr déjà appelé les secours, hein. À ce moment-là, vous allez commencer une réanimation, parce que là, a priori, il ne respire pas, il est inconscient,
il
est mort. Si jamais il respire un petit peu, vous le mettez en position latérale de sécurité.
On l'a bien compris, hein, bonnes attitudes à adopter pour tous les pays du monde. Ces gestes de première urgence, vous avez dit tout à l'heure l'eau froide, ces manœuvres en cas bien, en fonction bien sûr de chaque situation. On fait pas n'importe quel geste dans n'importe quelle situation. Et puis tout à l'heure aussi, il y avait ces conseils justement de compression en cas d'hémorragie, bien sûr. Alors tout de suite, autre illustration, on va partir pour le Gabon.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Augustine Makaya, bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Bonjour, vous êtes pédiatre à la clinique Sainte-Alice de Libreville. Docteur Makaya, est-ce que vous avez évalué la proportion d'accidents domestiques dans vos consultations pédiatriques, aux urgences pédiatriques?
Oui, tout à fait. Malheureusement, les accidents domestiques sont encore... prévalente dans nos consultations. Elle représente aujourd'hui à peu près 10%, 10% de nos consultations au niveau des urgences. Oui.
Avec quel type d'accident? On parlait tout à l'heure des brûlures, des fausses routes. Qu'est-ce que vous constatez, vous, docteur Makaya, dans votre pratique?
Alors, la tendance est un petit peu inversée. C'est vrai qu'à une certaine période, ce sont les intoxications qui venaient en tête. Et aujourd'hui, ce sont surtout les corps étrangers dans le nez, les oreilles et aussi dans le pharynx, et plus grave, intratrachéal. Ensuite, nous avons les chutes de lits, d'escaliers. Puis viennent les brûlures dues à l'eau chaude, hein, le fer à repasser...
Est-ce que ces différents risques et accidents correspondent à des moments particuliers de l'enfance?
Oui, ce sont des incidents qui arrivent surtout lorsque, au niveau du début, c'est-à-dire l'enfant commence à marcher. Il commence à marcher, donc on est entre un an et jusqu'à l'âge de 4-5 ans, on a beaucoup plus de risques. C'est l'âge de la découverte, de l'éveil, et donc on touche à tout, on a tendance à toucher, à ramener dans la bouche.
Et c'est impossible de garder un enfant 24 heures sur 24 sous surveillance, bien évidemment.
Oui, c'est très difficile.
Alors, tout à l'heure, vous parliez d'intoxication. De quel type d'intoxication s'agit-il justement dans ces enfants que vous voyez arriver aux urgences pédiatriques à Libreville?
Alors, l'intoxication la plus fréquente, les plus fréquentes que nous avons gérées, c'était les intoxications à l'eau de Javel et au pétrole. Il faut dire qu'à un certain moment, le pétrole était utilisé beaucoup plus qu'aujourd'hui. Mm-hmm. On l'utilisait pour la cuisine, hein, pour faire le feu, et puis aussi pour s'éclairer, hein, à certains endroits. Ce sont des enfants qui revenaient beaucoup d'un petit peu des environs de Libreville. Et donc, le pétrole était à la portée des mains de tout le monde à la maison.
Docteur Augustine Macaya, justement, en fonction de la nature de ce produit toxique, eh bien, la prise en charge va être particulière, c'est bien ça, en fonction de la nature du liquide ingéré.
Ah oui, l'eau de Javel et le pétrole, il y a une conduite à tenir particulière. D'abord, ce sont des enfants qui sont reçus en réanimation, hein, et qu'on va sédater, parce qu'on a d'abord, pour l'eau de Javel, ce sont des brûlures locales. C'est-à-dire que quand l'enfant l'ingère, il ne va pas ingérer une grande quantité. Parce que déjà, le produit va lui brûler la bouche. Mm-hmm. Et ensuite, il va se diffuser un tout petit peu. Donc, ce sont des enfants auxquels on ne fait pas de lavage gastrique, bien entendu. On va les sédater et après, on va les gérer en réanimation selon le produit ingéré. Pour le pétrole, la gravité du pétrole, c'est que c'est un solvant. Et que dès que l'enfant l'a ingéré, il diffuse dans les poumons, à travers la trachée artère. Et là, il y a une destruction des alvéoles et des complications très graves qui s'en suivent sur le plan pulmonaire.
Alors justement, il faut intervenir en amont pour ne pas en arriver là. En matière de prévention, est-ce qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation organisées dans votre pays, docteur Augustine Macaya, dans votre pays, le Gabon?
Ah oui, il y a eu de grosses campagnes de sensibilisation de la part des ONG, du ministère de la Santé. Mais bien sûr, la prévention, elle, comme toujours, on la fait à un moment, après elle disparaît, donc on oublie un peu. Bon, c'est vrai que ces campagnes ont quand même permis de réduire drastiquement ces incidents-là.
Ce sont des campagnes plutôt à l'extérieur où on va vraiment jusqu'à la cible, dans les écoles, dans les foyers, dans les structures communautaires? Comment ça se passe?
C'était surtout des spots publicitaires. Mm-hmm. Et puis à l'école, ça s'est limité là, voilà.
Merci beaucoup, hein. Merci pour ces informations, docteur Augustine Macaya. Merci pour ces réponses. Je rappelle que vous êtes pédiatre à la clinique Sainte-Alice de Libreville.
RFI à Libreville. 104 FM.
Docteur Massamba Sassoun Diop, nous nous retrouvons pour la dernière partie de cet échange. Priorité santé consacrée aux accidents de la vie courante. On parle aussi d'accidents domestiques. Alors bien sûr, il y a eu des progrès en matière d'information, d'étiquetage et même, on en parlait tout à l'heure, ces fameux bouchons sécurité. Mais on peut dire c'est très différent là aussi en fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde et puis aussi en fonction de nos possibilités financières économiques. Si on achète des produits sur le marché, on risque de trouver beaucoup moins de produits sécurisés.
Et surtout dans les pays du Sud où finalement on achète au détail. Et c'est là le vrai problème, c'est que dès qu'on achète au détail, c'est dans des petits sachets, ce n'est plus du tout sécurisé.
Et puis on a retiré toutes les précautions.
Et on a retiré les précautions. Et puis il y a une autre chose qui est très embêtante pour nous, c'est qu'une fois que le produit est comme ça finalement dans d'autres emballages, on ne sait pas quel est le produit. On a des centaines de milliers de produits différents. Et donc, il y en a pour lesquels il y a des antidotes, il y en a pour lesquels c'est tel ou tel traitement, et en fait on ne sait même plus qu'est-ce que la personne a absorbé. Et je voulais juste aussi dire une chose, c'est faites attention pour l'enfant justement de 2, 3, 4, 5 ans, sur les chutes, dès que vous êtes en appartement, ou même d'ailleurs sur sa maison,
les fenêtres.
Mmh. L'enfant, il découvre, et du coup, il voit, il met un tabouret sur le tabouret.
C'est un aventurier.
Il met une petite table, sur la petite table, il met un tabouret, sur le tabouret, il se penche à la fenêtre ou au balcon, et il passe de l'autre côté. Et ça, c'est malheureusement aussi extrêmement fréquent. Donc, ce type de prévention-là, pensez-y, c'est pas parce qu'il n'a pas la taille pour accéder en haut qu'il ne va pas accéder.
Alors, il y a des campagnes, on l'a vu là, avec ces campagnes de prévention qui peuvent jouer, mais ce qui est très important aussi, c'est la législation, qu'il y ait un cadre légal, même si c'est pas toujours respecté, mais au moins poser les choses clairement, poser des règles pour éviter ce genre de drame. Notamment en termes de construction, par exemple.
Ça, c'est au niveau, que ce soit des industriels, que ce soit au niveau des normes, justement, de construction, où on puisse obliger les structures à faire ça. Alors, encore une fois, ce cadre-là est de plus en plus développé. Plus on est dans les pays nordiques, et plus ça se développe, et plus on est dans les pays du Sud, les choses se font. Incontestablement, ça avance, hein, on le voit, les gens deviennent conscients de ça, mais il y a encore un delta à combler qui est très important.
Ce que vous disiez tout à l'heure, justement, pour la fenêtre, ça vaut aussi pour la cuisine, quand cette auditrice tout à l'heure nous disait, j'ai mis en hauteur les objets, un tabouret, il faut que ce soit, quand vous disiez vraiment en hauteur, c'est hors
de la somme du tabouret plus de la hauteur
du cirque, qui va être fait par l'enfant pour remonter ensuite.
Jusqu'à 9-10 ans. Après, on arrive à lui faire le raisonnement. On arrive quand même à un certain nombre de choses. Mais avant, il faut faire très attention.
Mais docteur Massamba Sassou Ndiop, on disait tout à l'heure, on ne peut pas garder les enfants sous surveillance 24-24. On ne peut pas élever des enfants dans des bulles. Mais comment on peut faire pour, au maximum, éviter ces traumatismes et sauver des vies? C'est un peu une équation impossible. On le disait tout à l'heure, en France, par exemple, le nombre de décès par accident de la vie courante ne baisse pas. Est-ce qu'on n'a pas finalement atteint des limites? Il y a encore des choses à faire?
Non, le problème, c'est qu'à part cette sensibilisation très tôt, mais vraiment très tôt, on bute. On bute justement sur ce chiffre-là, et c'est pour cette raison. C'est que, à part que l'enfant, peut-être, est-ce qu'il faut le faire justement en maternelle? Déjà, probablement. Hein.
Une responsabilisation
plutôt,
précoce. Puisqu'en
fait, le tout petit, c'est le tout petit. Hein. De 0 à 3 ans, c'est ce qui se passe à la maison, et c'est la surveillance, et c'est les parents. Après, moi je suis étonné de ce qui reste chez l'enfant quand les cours, j'ai essayé de faire dès la maths sup, hein, maternelle supérieure, j'ai commencé dès là jusqu'au terminal pour voir, et ceux qui étaient les plus sensibilisés, qui s'en souvenaient après, c'est les tout petits jusqu'à la fin du primaire. Ça reste gravé, et c'est donc à cet âge là qu'il faut agir, et souvent d'ailleurs après ils reprennent les parents, hein. Et ils vont, moi je leur dis d'ailleurs, allez à la maison et dites aux parents, je jette ça, je fais ça, maintenant vous changez telle chose. Et ils le font. Et après les parents me reviennent en disant, oh là là, mais ils m'ont fait tout jeter là.
Éducation dans les deux sens. Merci beaucoup, hein, docteur Massamba Sassou Ndiop, d'être venu dans les studios de RFI.
Merci.
Je rappelle que vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Cette contribution d'un groupe composé d'acteurs de premier plan en termes de santé mondiale, des experts qui se mobilisent pour préparer un rendez-vous clé qui va se tenir en octobre prochain à Lyon, en France. Ce rendez-vous, c'est la conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. À 5 mois du rendez-vous, un groupe de réflexion, un Santé mondiale 2030, se retrouve dans le cadre de Sciences Po Paris. Et vous faites partie de ce think tank, comme on dit en français dans le texte. Professeur Jean-François Delfraissy, bonjour.
Bonjour.
Alors, pourquoi se réunir dès à présent pour ce rendez-vous du mois d'octobre?
Parce que les choses, beaucoup de choses vont se jouer là maintenant. La France joue un rôle clé dans cette reconstitution, puisque, et c'est une bonne nouvelle, le président de la République a décidé que cette réunion aurait lieu en France, ce qui est un message significatif, je dirais, de la part du gouvernement français par rapport à son implication et à la poursuite de son implication dans les financements multilatéraux et en particulier du Fonds mondial.
La France qui est deuxième contributeur historique du fonds, justement, quels sont les arguments qui sont de nature à convaincre de l'efficacité de ces actions? Est-ce qu'on peut même parler de résultats probants?
Oui, il y a des résultats probants. Le fonds n'est pas le seul, mais avec le programme américain PEPFAR, ce sont les deux grands programmes qui permettent de financer, d'aider à cofinancer les médicaments contre le VIH-SIDA, mais aussi contre la tuberculose et contre le paludisme, ou en tout cas d'avoir des outils de prévention contre le paludisme. Donc les résultats sont au rendez-vous. Ils sont au rendez-vous dans le paludisme, avec une nette diminution du nombre du nombre de cas et en fonction d'un certain nombre de pays. Ils sont au rendez-vous dans le domaine du VIH avec le pourcentage et le chiffre absolu de patients qui sont traités dans le monde, hein, qui a considérablement augmenté au cours des dernières années. Et puis, ils sont un peu moins au rendez-vous dans le domaine de la tuberculose, qui reste un sujet difficile, mais néanmoins, avec aussi un certain nombre de résultats intéressants sur en particulier la co-infection VIH-tuberculose.
Est-ce qu'il n'y a pas une forme de paradoxe, c'est-à-dire plus on avance, plus il y a de résultats, moins les donateurs se mobilisent, et on perçoit bien depuis quelques années une forme d'inflexion, une forme de stabilisation de cette mobilisation internationale, professeur Delfraissy, de cette solidarité internationale?
Ben oui et non, c'est un modèle très particulier qui a été monté pour financer en multilatéral, hein, avec finalement la création du Fonds mondial, qui permet à des pays qui n'en auraient pas les moyens d'avoir accès à ce type de traitement, et qui surtout a installé un nouveau mécanisme de gouvernance, où ce sont les associations de patients eux-mêmes, au niveau des différents pays, qui sont en première ligne des décisions qui peuvent être prises. Et ça, c'est aussi un élément stratégique du fonds qui est important. Alors, oui, il faut maintenant qu'on passe à une deuxième phase, hein, du fonds mondial, qui est comment finalement faire que les pays eux-mêmes ne soient plus seulement dans un mécanisme d'assistanat et de financement international, mais consacrent une part plus importante de leur budget santé et de leur PIB à la prise en charge de leurs patients. C'est un sujet difficile. Il y a un certain nombre de pays qui sont en crise politique et en crise sanitaire, on le sait. L'Afrique francophone est dans une situation qui est plutôt moins bonne que ce qu'on observe en Afrique anglophone. Et néanmoins, l'enjeu est là. Donc on est, pour cette réunion de Lyon, à la fois dans trouver des financements. Arriver au minimum au même niveau que précédemment et si possible faire mieux, et en même temps commencer à s'interroger, c'est l'objet de notre think tank, sur qu'est-ce qu'on attend pour la suite. Et on souhaite aussi indiquer que le positionnement français, je dirais, dans l'aide au développement et dans la santé mondiale pourrait être probablement plus visible, mieux coordonné qu'il ne l'est actuellement, tout budget égal par ailleurs. Et que ce n'est, je dis souvent, qu'on a de très bons diplomates, de très bons médecins, et qu'on a du mal à monter une très bonne diplomatie sanitaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas jusqu'à maintenant comme un des enjeux considérés comme essentiels par rapport, par exemple, à des choix qui ont été faits sur le climat ou l'éducation, que je respecte. Néanmoins, et on le voit bien, et les débats nationaux récents, y compris en France, ont montré que même si ce n'était pas au rendez-vous, eh bien, l'accès aux soins et l'accès à la santé est une priorité pour nos citoyens. Si c'est une priorité pour nos citoyens, on peut imaginer que ça l'est aussi, évidemment, pour nos amis des pays du Sud.
Et on attend la concrétisation, donc, à Lyon, au mois d'octobre. Merci beaucoup, professeur Jean-François Delfraissy, président de ce Think Tank Santé Mondiale 2030, président, par ailleurs, du Comité Consultatif National d'Éthique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et demain, dans Priorité Santé, émission spéciale sexualité, toutes vos questions au docteur Catherine Solano. Le thème de l'émission, comprendre les envies de l'autre. Bien sûr, vos messages seront nombreux sur notre page Facebook, ils le sont déjà. Et à notre numéro 33 84 22 75 75, on se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les bons chefs d'entreprise, bénéficiez de l'indemnité fin de carrière de vos employés sans préjudice avec Suno Assurance. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.